Le 17e chapitre de l'Évangile selon Jean nous ouvre le cœur du Christ de la manière la plus poignante. Nous sommes dans le jardin dont la paix sera troublée dans quelques instants par l'arrivée de la meute sous la conduite du traître. Dans quelques heures, Jésus de Nazareth sera crucifié pour la rédemption des hommes. Il pense à son œuvre, il pense à ses disciples, il pense surtout à tous ceux qui, à travers les siècles, entendront le témoignage de ses disciples et qui croiront en lui. Et il prie pour eux. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. La ferveur de cette prière est bouleversante. Elle exprime une grande préoccupation, celle de l'unité parfaite de tous les croyants. C'est une préoccupation car l'unité n'est pas quelque chose qui va de soi. Ça ne se fait pas tout seul, l'unité. Et lorsqu'elle est en train de se réaliser, il faut constamment veiller à ce qu'elle soit préservée. C'est donc un effort, c'est souvent un combat. L'importance de l'unité est soulignée dans toute la Bible. Écoutez David qui chante dans un de ses psaumes « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Le prophète Amos, dans le langage direct qui le caractérise, pose cette question logique. Deux hommes font-ils route ensemble sans s'être concertés? Et lorsque l'Église sera fondée dans les premiers jours qui marquèrent son existence, un témoin rapporte que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une âme. Cependant, comme nous l'avons vu plus haut, l'unité doit être protégée, car elle est sans cesse menacée. Aussi, les lettres aux Églises que préserve le Nouveau Testament contiennent-elles de nombreuses exhortations sur le sujet de l'unité. Dans leur douloureuse ferveur, elles continuent la prière du Christ. L'apôtre Paul, par exemple, écrit du fond de sa prison « Je vous exhorte, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Puis il ajoute « Il y a un seul corps, il s'agit de l'Église, et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. » L'apôtre avait parlé au nom de Dieu. L'unité des croyants, ainsi exprimée, fait partie du plan de Dieu. Cependant, très tôt dans l'histoire de l'Église, l'adversaire commença de jeter la discorde entre les frères. C'était là, et c'est encore, sa stratégie la plus perfide et la plus efficace, diviser pour mieux régner. « Je sais, avait dit l'apôtre Paul, qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. » Le cri d'alarme était déjà jeté par les apôtres. À peine 30 ans après l'établissement de l'Église à Jérusalem, la division, ce monstre à plusieurs têtes, faisait son apparition. Dans sa lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul implore « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Que s'était-il passé exactement? « Car, mes frères, j'ai appris qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi, d'Apollos, et moi, de Céphas, et moi, de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Peut-on être plus catégorique que cela? Il est difficile de méditer ces vérités, écrit le professeur Jean Hering dans son commentaire, sans s'étonner que des chrétiens qui connaissaient cette épître aient jugé bon d'accepter le nom de dominicain ou de franciscain, de luthérien, de calviniste ou de wesleyen. Ce sont là en effet des noms de parti qui glorifient un fondateur humain. Quelles que soient les excuses ou les raisons que l'on puisse invoquer pour justifier ces appellations diverses, il est très probable que les Corinthiens avaient déjà essayé de les faire valoir. Ils n'en méritèrent pas moins la sévère et douloureuse réprimande de l'apôtre Paul, car cette attitude est violemment contraire à la volonté de Dieu. Elle déchire le Christ en lambeaux, et chacun veut se prétendre meilleur que les autres en voulant porter un autre nom que les autres. Nous voici donc aujourd'hui, malgré les injonctions et les mises en garde répétées des apôtres, avec plusieurs centaines de sectes et d'églises qui toutes portent un nom différent. Elles ont des doctrines différentes, elles tissent toutes leurs propres traditions dont elles sont jalouses, elles développent presque toujours un vocabulaire ou une manière de s'exprimer qui les différencie des autres. Ainsi se consolident toujours davantage les murs de séparation. Dans cette confusion, plusieurs attitudes se forment. Il y a d'abord ceux qui affirment que tous les autres, à l'exception d'eux-mêmes, sont dans l'erreur. Ils sont seuls détenteurs de la vérité. L'unité ne peut se réaliser qu'en adhérant à leur système de doctrine. Il y a ceux qui cherchent à réduire les murs de séparation. Ils cherchent sincèrement le dialogue avec les autres pour apprendre à se connaître, à se comprendre et pour examiner les divergences. Ils veulent se rapprocher du vrai sans compromis. Cette attitude est louable, elle est saine. Elle doit être vivement encouragée. Il y a ensuite ceux qui pensent que cette multiplicité d'églises est une bonne chose. Puisque les hommes diffèrent quant à leur origine, leur milieu, leur instruction, leur goût, n'est-il pas logique qu'ils s'affilient à des églises différentes, chacun choisissant celle qui lui convient le mieux? Choisissez l'église de votre choix et remerciez le Seigneur qu'une telle diversité vous soit offerte. Cette idée, qui résout d'un seul coup la question de la division religieuse en la justifiant, est totalement étrangère à la Bible. Nombreux pourtant sont ceux qui y souscrivent, car elle est séduisante, il faut l'avouer. Nous verrons en quoi elle est aussi dangereuse. C'est comme si l'apôtre Paul avait écrit aux Corinthiens « Que vous vous réclamiez de Paul, d'Apollos ou de Pierre, peu importe. Ce sont de toute manière autant de chemins qui mènent à Christ. Je vous exhorte seulement à vivre en paix les uns avec les autres. » Sur cette base, des associations se forment au nom de l'unité. Elles groupent dans un même effort diverses églises professant des doctrines différentes et même parfois contradictoires. Au sein de cette union, elles coexistent pacifiquement. Mais est-ce réellement l'unité pour laquelle le Christ avait prié? Voici par exemple une assemblée de gens sincères qui croient sincèrement que les chrétiens doivent continuer à se réunir le jour du sabbat, c'est-à-dire le samedi, comme les juifs. D'autres croient que le jour du Seigneur est le premier jour de la semaine, le dimanche, car c'est ce jour-là que le Christ est ressuscité. Voici un autre groupe qui croit que pour être sauvé, il suffit de croire en Christ. D'autres, non moins sincères, trouvent que les Écritures insistent non seulement sur la foi, mais aussi sur les œuvres de la foi, autrement dit sur l'obéissance. Ceux-ci pensent que le baptême doit être administré comme au premier temps par immersion, rappelant la mort et la résurrection du Seigneur, et qu'il est une des conditions de la rémission des péchés. Ceux-là ne tiennent pas le rite extérieur pour essentiel. Ils affirment qu'il suffit d'un simple assentiment de l'esprit pour plaire à Dieu, car ce baptême est reçu dans le cœur. Ici, on baptise les enfants nouveau-nés. Là, on accepte au baptême que ceux qui sont capables de faire profession de foi, qui sont donc en état de comprendre la signification de leur baptême. Au nom de l'unité, doit-on fermer les yeux sur ces divergences? Doit-on abandonner tout espoir de comprendre les choses de la même manière? Doit-on se résoudre à justifier la division comme une chose voulue de Dieu? Ont-ils tous raison? Sont-ils tous dans la vérité? Le sujet est bien trop vaste pour être traité en une seule émission de 13 minutes 30. Je vous propose donc de continuer ces réflexions.